Oui, tout à fait. Je me suis toujours élevé contre la séparation que notre culture et notre société, et même à l'éducation, veut effectivement imposer entre les différentes disciplines de l'esprit humain, qui pour moi sont absolument complémentaires. Donc pratiquer la science, c'est-à-dire tenter de comprendre l'univers avec une certaine forme de langage, celui plus ou moins de la rationalité, hein, évidemment, la modélisation physique et mathématique pour en comprendre les lois qui gouvernent l'univers, mais aussi l'approche émotionnelle. Même s'il y a aussi de l'émotion d'ailleurs dans la création scientifique, mais l'approche plus émotionnelle liée à la création artistique, pour moi tout aussi fondamentale pour saisir autre chose de l'univers qui nous entoure. Donc ce sont des approches complémentaires. Je dirais même pas qu'elles sont parallèles puisqu'elles se rejoignent.
Mais est-ce que parfois il y a eu des barrières à cette approche émotionnelle?
Oui, il y a donc cette malheureuse tendance à séparer le savoir et l'émotion. On a tendance à penser que voilà, la raison est du côté de la science et de ses applications technologiques, et l'émotion est du côté de l'art, de la littérature, la poésie, la musique, etc., la création artistique en général. Je m'inscris totalement en faux contre cela, ne serait-ce que parce que d'abord, il y a également beaucoup d'émotions dans la création scientifique, parce que l'élaboration de modèles scientifiques. Bon, il faut dire aussi que je suis un physicien théoricien. Je ne suis pas un expérimentateur manipulant des instruments, des appareils compliqués. Je travaille avec les yeux de l'esprit. Donc il y a une forme de liberté créatrice à laquelle je tiens absolument. Et donc lorsque je travaille sur les trous noirs, j'imagine des processus possibles qui ne sont pas forcément observables directement dans les instruments. Lorsque je réfléchis sur la forme de l'espace également, ce sont des modèles issus de mon imagination mathématique, bien entendu. Donc il y a une forme de créativité. Et donc il y a forcément également de l'émotion, notamment lorsque on a la chance de voir se réaliser quelques-unes des prédictions que l'on a pu faire quelques années auparavant, de réaliser cette fois-ci, de les voir se réaliser expérimentalement. Du côté également de la création artistique, il y a également, c'est pas pure émotion, bien entendu, il y a aussi une vraie structure derrière, et notamment, alors justement, quand il s'agit d'œuvres musicales. Où j'ai eu la chance de collaborer, soit avec Le Noir de l'Étoile de Gérard Griset, cette musique pour percussion et pulsar, ou plus récemment, cette œuvre étonnante pour orchestre de Hector Parra, qui s'appelle Inscape, et qui est construite en fait sur un scénario que nous avons conçu ensemble, mais un scénario qui est un véritable voyage dans l'espace et le temps. On voit bien qu'il y a une structure, donc, et également donc de la raison. Donc voilà, donc raison et émotion se trouvent des deux côtés, à la fois de l'art et de la science.
C'est vrai que vous êtes ici parce que ce soir, vous allez donner une conférence dans le cadre du festival Usine Sonore. Et on sait bien qu'avec notamment Julien Anoni et Olivier Membré, avec Usine Sonore, il y a toujours eu cette volonté de recherche et il y a un parallèle évident depuis toujours entre les mathématiciens et les musiciens.
Oui, alors j'avoue que je ne connaissais pas auparavant le festival Usine Sonore, donc j'étais très heureux d'être contacté l'an dernier, parce qu'il faut effectivement contacter longtemps à l'avance pour que je sois disponible, et j'ai vraiment accepté avec grand plaisir, voilà, de venir à la fois assister à et participer même à une représentation donc de ce Noir de l'Étoile, cette œuvre donc que j'ai conçue avec le compositeur Gérard Griset au tout début des années 1990, qui est une œuvre spectaculaire mettant en scène six percussionnistes humains et des étoiles invitées au moment du concert qu'on appelle des pulsars, et puis donc effectivement pour compléter ce séjour, puisque l'un des thèmes du festival, c'est les étoiles. Et voilà, donc une conférence préliminaire où on va s'approcher des étoiles, où je vais raconter effectivement les merveilles que l'on apprend sur la naissance, la vie et la fin des étoiles et toute la richesse extraordinaire des connaissances.
Rendre les étoiles accessibles à nos esprits, c'est un rêve de toujours pour vous, Jean-Pierre Luminet.
De toujours, je ne sais pas, puisque donc je n'ai pas eu de vocation particulière d'astronome très très tôt dans mon enfance, où j'étais plutôt porté justement vers les disciplines artistiques que j'ai pratiquées avant finalement de faire de la science. Alors après j'ai effectivement suivi une filière scientifique parce que bon, moi j'aimais les mathématiques et donc ça s'est fait tout naturellement, et j'ai progressivement découvert effectivement la magie de l'astrophysique, mais je dois dire assez tardivement.
Il y a eu un déclic à un moment donné?
Oui, il y a eu un déclic, puisqu'en fait je faisais des études de mathématiques pures tout en, je le répète, m'occupant essentiellement le reste de mon temps de musique, de littérature, de poésie, de peinture, etc. etc. Et bien oui, il y a un déclic, et comme souvent, c'est grâce à de la bonne vulgarisation scientifique, c'est-à-dire au début des années 70, c'est déjà fort longtemps maintenant, ben, j'ai lu 2-3 ouvrages de bonne vulgarisation scientifique sur la relativité générale. On commençait à parler un peu des trous noirs, mais pas beaucoup. On parlait un peu du Big Bang, tout ça, ça m'a fasciné. Je me suis dit, finalement, ces mathématiques très abstraites et merveilleuses que je pratique, mais ça peut aussi servir à essayer de comprendre un peu mieux quelques-unes des énigmes de l'univers. Est-ce que l'espace est fini, infini? Qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir, etc. Voilà, c'est comme ça que c'est venu.
Est-ce que vous regardiez les étoiles lorsque vous étiez enfant, Jean-Pierre Luminet?
Alors, comme je suis né et vécu toute mon enfance en Provence, sous un beau ciel, effectivement, très clair et très pur, ben, il y avait toujours le spectacle du ciel qui était là. Mais comme je l'ai dit, je n'avais pas particulièrement de vocation d'astronome, donc je regardais le ciel simplement pour sa beauté. Et quand je regardais les étoiles, en fait, comme je l'ai écrit dans un de mes ouvrages, ce qui m'interrogeait le plus, ce n'était pas tellement les étoiles en elles-mêmes, mais c'était le noir qu'il y avait entre les étoiles. Puisque nous, on voit les étoiles avec nos yeux, on voit les étoiles plongées dans le noir, enfin, en tout cas, par une belle nuit. Et ce noir, c'est quoi? Donc déjà, je me posais la question, quand j'avais 15 ans, 16 ans, est-ce que c'est du vide, ce noir? Est-ce que c'est l'absence totale de lumière? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Et finalement, je m'aperçois, mais avec le recul, parce que tout ça, je ne l'avais pas programmé dans mon esprit, je m'aperçois, finalement, j'ai travaillé tout le temps là-dessus, pendant 40 ans de travail, c'est essayer de décoder l'invisible. Le noir, c'est les trous noirs, la matière noire, l'énergie sombre, et on s'aperçoit que l'essentiel est dans le noir, et l'univers, il est gouverné par des formes de matière et d'énergie qui échappent à nos yeux, et c'est ça qui est particulièrement fascinant. Donc les étoiles, c'est magnifique, mais c'est juste les épingles lumineuses qui surgissent en fait du substrat essentiel de l'univers, qui lui reste invisible à nos yeux, mais j'espère pas à notre esprit et à notre entendement.